VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 27 octobre 2015, en direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. Mais tout d'abord, les titres.
48 heures après le scrutin, la Côte d'Ivoire toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle.
L'opposition au Congo-Brazza veut poursuivre sa désobéissance civile.
Recensement biométrique au Tchad.
Je voudrais donc lancer un appel à tous les Tchadiens, où qu'ils soient, âgés de 18 ans et plus, de se recenser sans retenue. Et c'est là que demain, le citoyen va, avec cette carte, faire ses choix.
Manifestation à Goma pour un nouveau calendrier des élections municipales et présidentielles.
Nous sommes certains que nous allons obtenir le calendrier. Et qu'il pleuve, qu'il neige, il n'y aura pas de glissement. Les Congolais ne l'accepteront jamais. Et nous voulons que la CENI comprenne ce message bien.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal. Dans l'actualité africaine, élections en Côte d'Ivoire, 48 heures après le scrutin. La Côte d'Ivoire est toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. La commission électorale indépendante a officiellement 5 jours pour proclamer les résultats définitifs. En faisant le pari des tablettes biométriques pour sécuriser le vote, elle pensait aussi accélérer la publication des résultats. Or, il tombe au compte-gouttes. Les précisions de notre envoyée spéciale en Côte d'Ivoire, Tatiana Mosso.
Il y a bel et bien une bataille autour du taux de participation. Lundi à la mi-journée, la commission électorale indépendante annonçait un taux de 60% de participation, un chiffre que s'est empressé de contester l'opposition. De son côté, la société civile l'a situé hier soir à 53%. Toujours est-il que tard dans la soirée, les résultats sur le taux de participation région par région arrivaient au compte-gouttes, notamment pour les communes d'Abidjan, la capitale, où Alassane Ouattara semble être en tête depuis lundi soir, selon le site d'information abidjan.net. Et c'est dans ce contexte que l'un des candidats en lice pour le fauteuil présidentiel, Kwadio Konan-Bertin, dit Kakabé, a reconnu sa défaite. Il a félicité le président sortant Alassane Ouattara, qui est assuré de remporter la victoire selon les résultats provisoires que Kakabé avait comptabilisés au sein de son parti. On peut s'interroger sur cette sortie. Dimanche après le scrutin, Kakabé déclarait vivement qu'il ne laisserait pas Alassane Ouattara lui voler sa victoire. Alors, calcul politique ou rappel à l'ordre, en attendant, tous les regards restent rivés sur la CEI qui n'a encore livré aucun résultat, même partiel. Tatiana Mosso à Abidjan pour VOA Afrique.
En Guinée, 3 des 8 candidats à l'élection présidentielle ont déposé des recours devant la Cour constitutionnelle. Des précisions avec Eric Manirakiza.
Au lendemain du scrutin du 11 octobre 2015, cette candidate à la présidence avait dénoncé une mascarade et refusé par avance d'en reconnaître les résultats. 3 d'entre eux ont déposé des recours devant la Cour constitutionnelle qui doit statuer et donner les résultats définitifs le lundi 2 novembre 2015. Faya Milimono, Papa Koli Kuruma et Lansana Kouyaté avaient 8 jours après l'annonce des résultats provisoires pour le faire. Le 17 octobre, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé vainqueur au premier tour le président sortant Alpha Condé avec plus de 57% des suffrages. Le chef de l'opposition, Selou Dalein Diallo, arrivé deuxième avec plus de 31% des voix, avait refusé de saisir la haute cour dont il conteste l'indépendance.
L'opposition congolaise a annoncé hier à Brazzaville la poursuite de ses opérations de désobéissance civile, jugeant que le président Denis Sassou Nguesso avait subi un camouflet la veille au référendum sur ce projet de constitution lui permettant de se représenter en 2016. Le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala a indiqué que les résultats du référendum seraient annoncés mercredi soir ou plus tard. Selon les observations de plusieurs journalistes de l'AFP à Brazzaville et à Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, les informations récoltées dans plusieurs autres grandes villes dans diverses régions, les électeurs semblent avoir largement boudé les urnes dimanche.
Le Nigeria poursuivra sa campagne d'éradication de la poliomyélite jusqu'à ce que le pays soit certifié exempt de virus mortel. Eddie Isango.
Le président Muhammadu Buhari a assuré hier à Abuja, pendant la visite de Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, que son pays va poursuivre sa campagne contre la polio jusqu'à être déclaré totalement exempt. Le dernier cas nigérian de polio a été recensé en juillet 2014 à Soumaïla, dans l'état du Kano. Les campagnes de vaccination ont buté parfois sur des rumeurs et des préjugés. Le mois dernier, le Nigeria a été retiré de la liste des pays où la maladie est endémique. Il faut 2 années de plus sans nouveau cas pour qu'une zone soit considérée comme débarrassée de cette maladie très contagieuse, incurable, invalidante et parfois mortelle. Elle est causée par un virus qui prolifère dans des conditions sanitaires précaires, détruit les systèmes nerveux et peut entraîner la paralysie ou la mort. La polio reste endémique au Pakistan avec 32 cas et en Afghanistan avec 9 cas recensés en 2015.
Les Algériens sont restés en partie coupés du monde hier, 5 jours après une panne géante d'Internet, dont l'impact est toutefois limité par la faible numérisation de l'économie nationale. L'Algérie a perdu 80% de sa capacité de connexion à la toile à cause d'une coupure d'un câble sous-marin jeudi dernier, au large d'Annaba, situé à 600 km à l'est d'Alger. Dans tout le pays, des cybercafés dont le nombre a explosé ces dernières années et où les jeunes veillent jusqu'au milieu de la nuit pour chatter ou se livrer à des jeux en ligne, ont dû fermer leurs portes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, Hébron, plus grande ville de Cisjordanie, a été secouée hier par de nouvelles violences. 3 Palestiniens ont été tués. Jean-Roger Bion.
2 Palestiniens ont été abattus à Hébron à la suite de 2 attaques à l'arme blanche. Un Israélien a été grièvement blessé. Par ailleurs, un Palestinien de 17 ans a été tué par balle, non loin de la ville, dans des heurts presque quotidiens avec les soldats israéliens. Hébron est une poudrière où 500 colons juifs vivent derrière miradors et barbelés. En dehors de la ville, le conflit est permanent entre Palestiniens et Israéliens dans des colonies comme Kiryat Arba. Depuis le 1er octobre, les violences ont fait d'un côté 57 Palestiniens tués et de l'autre 8 morts israéliens.
Les pays des Balkans exposés à l'afflux de migrants ont prudemment salué hier lundi l'assistance promise par l'Union européenne pour faire face à ce phénomène. La Slovénie, par laquelle ont transité plus de 75 000 migrants en 10 jours après des fermetures de frontières en Hongrie. La Slovénie avait averti la semaine dernière ne pas exclure de boucler à son tour son territoire. L'une des principales propositions de ce plan d'urgence est de créer rapidement 100 000 places d'accueil pour les réfugiés en Grèce et dans les Balkans. Car, je le cite, on ne peut pas laisser les gens livrés à eux-mêmes dormir dans des champs en 2015, a expliqué le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
Les secours se mobilisent au Pakistan et en Afghanistan pour tenter de retrouver les victimes du puissant séisme qui a fait près de 300 morts dans la région frontalière des deux pays, une tâche compliquée par la topographie de ces régions montagneuses et la présence de talibans. La majorité des victimes étaient cependant dans l'immédiat recensées au Pakistan, où le séisme a fait au moins 214 morts et plus de 1800 blessés. Principalement dans le nord-ouest, selon les services de secours. Il y a 10 ans, au Pakistan, le 8 octobre 2005, un séisme de magnitude 7,6, dont l'épicentre se situait à quelques centaines de kilomètres de celui d'hier, avait fait plus de 75 000 morts.
Élections en Haïti, les électeurs haïtiens se sont déplacés plus nombreux dimanche pour élire notamment leur président et leurs représentants au Parlement. La participation au scrutin de dimanche se situe autour de 30%, soit davantage que lors des élections présidentielles de 2010 et 2011, a annoncé lundi le chef de la mission d'observation électorale de l'Organisation des États américains. Cette affirmation citoyenne est une nouveauté pour le pays de la Caraïbe, d'une pauvreté extrême, où les élections précédentes ont été gagnées dans la rue et non dans les urnes. Le vote n'a pas été perturbé dimanche par des violences ou des fraudes massives, mais chacun sait qu'en Haïti, que l'annonce des résultats sera l'étape décisive pour la stabilisation politique du pays.
Conflit au Yémen, une organisation humanitaire saoudienne créée par le roi Salman d'Arabie Saoudite, a assuré hier qu'elle distribuait son aide au Yémen de manière impartiale, y compris dans les régions tenues par les rebelles houthis bombardées par Riyad.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique ou ailleurs, c'est la Minute Éco ce matin avec Bagassi Koura.
L'Inde accueille depuis ce lundi un rassemblement inédit de chefs d'État africains. Ce sommet Inde-Afrique, qui se tient jusqu'au 29 octobre, est le plus important rassemblement de dirigeants étrangers en Inde depuis 1983. L'Inde est largement supplantée par la Chine en Afrique.
Tout ce qui contribue à réduire l'influence de l'unilatéralisme aujourd'hui est un élément positif.
Maurice Saé est économiste ivoirien.
C'est un marché de plus d'un milliard d'habitants, un milliard de consommateurs. Si vous arrivez à vous faire 100 millions déjà, je pense que même 10 millions, c'est déjà pas mal.
Les échanges entre l'Inde et l'Afrique se sont cependant renforcés, passant de 3 milliards de dollars en 2000 à 70 milliards en 2014, selon New Delhi. L'État burkinabé perd chaque année entre 8 et 12 milliards de francs CFA dans la filière sucre. C'est le constat d'une étude publiée par l'Institut Free Afrique à Ouagadougou. Le gouvernement a décidé de venir au secours de la SN Sosuco, filière du groupe IPS West Africa. Celle-ci a du mal à placer une production estimée à 30 000 tonnes, soit 25% des besoins nationaux sur le marché local. En Côte d'Ivoire, les industriels du secteur minier demandent au futur président d'appliquer le nouveau code minier. Selon l'AFP, celui-ci prévoit d'augmenter la durée de validité des permis de recherche, passant de 7 à 10 ans, avec une possibilité de renouvellement exceptionnel de 2 ans. Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire, Babylone, annoncent la création de la première plateforme de financement participatif dédiée à l'accès à l'énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cette plateforme, qui sera accessible au public début 2016, vise d'ici à 2 ans le financement de 2000 micro-entreprises dans une douzaine de pays.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Bagassi. Et maintenant, notre page sport avec Nicolas Pineau.
Bonjour Claire.
L'info du jour n'en est pas une en football.
Nos confrères de l'équipe annoncent ce lundi l'arrivée de Rigobert Song à la tête de la sélection tchadienne. À 39 ans, cela serait une première expérience en tant qu'entraîneur pour l'ancien joueur de Metz, de Lens ou encore de Liverpool. Oui, mais voilà, cette information est démentie par la fédération tchadienne qui reconnaît des contacts en septembre dernier avec le Camerounais. Mais rien de plus, VOA Afrique a joint Djibrin Dembélé, le secrétaire général de la fédération tchadienne de football. On l'écoute.
Oui, en fait, c'est vrai, tout comme vous, nous avons lu tout de suite les informations dans l'équipe comme quoi Rigobert Song est devenu sélectionneur du Tchad. Bon, en fait, nous avons effectivement eu des contacts au mois de septembre avec Rigobert Song. On l'a invité pour notre match contre l'Égypte. Des contacts sont en cours, effectivement, mais aucun contrat n'a été encore signé avec Rigobert Song.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est quand même le favori?
Là, je ne peux pas vous le dire parce que jusqu'à là, rien n'a été fait, et donc je ne peux pas vous confirmer.
Est-ce que ça vous surprend, ce genre d'information finalement?
Oui, effectivement, parce que tout comme vous, en fait, ça fait le tour du monde. Et puis, pour des choses qui ne sont pas encore matérialisées, moi, je pense que ça surprend, oui. Pour le moment, c'est Mamadou Mariaya qui est l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale.
Djibrin Dembélé, le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football, il était joint à N'Djamena.
La présidence de la FIFA, Michel Platini, sur la touche, définitivement ?
Lâché par l'UEFA avec l'annonce surprise de la candidature d'Infantino, son secrétaire général, l'Europe du football a fini par sortir son plan B pour l'élection du 26 février. Et c'est une mauvaise nouvelle pour Platini, le patron de l'instance européenne. Autre candidature, le cheikh Bahreïni Alman, le sud-africain Tokyo Sekwale, le prince jordanien Ali, le français Jérôme Champagne, le libérien Moussa Bilitti et le trinitéen David Nakid. Platini toujours suspendu par la FIFA. Apparaît désormais complètement isolé.
Marathon de New York ce dimanche.
Les Kenyans Wilson Kipsang et Mary Ketani, victorieux de la course l'année dernière, défendront leur titre. Kipsang, 33 ans, médaillé de bronze olympique en 2012, courra son premier marathon depuis son abandon lors des Mondiaux de Pékin. C'était fin août l'année dernière.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, de nouveau avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Et nous revenons en Côte d'Ivoire. Alors que tous les regards sont tournés vers le siège de la Commission électorale indépendante, le pays attend toujours les résultats de l'élection présidentielle de dimanche. Les votes se sont encore compilés et ne sont pas encore tous arrivés à la CEI. Notre envoyée spéciale à Abidjan, Tatiana Mosso, fait le point avec le vice-président Gervais Koulibaly.
Organiser un scrutin, bien sûr, mais surtout organiser un scrutin qui soit apaisé. C'était le mot d'ordre que toute la Côte d'Ivoire avait à la bouche. Et nous avons donc essayé. Et nous pensons que pour être un scrutin apaisé, nous avons réussi notre mission. Les Ivoiriens sont sortis relativement nombreux pour poser leur acte civique. Ils ont voté, ils sont rentrés chez eux. Il nous appartient maintenant de leur donner le fruit de leur vote.
Ça a été un vote qui se voulait moderne, notamment avec une nouvelle technologie, celle des tablettes. Il y a eu quelques couacs puisque 29% des tablettes n'avaient pas été distribuées. Quelles sont les conclusions dont vous pouvez tirer de ce premier tour au cas où il y aurait par exemple un deuxième tour ?
Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons voulu aller vite grâce à la technologie moderne. Et tous les grands pays au monde avancent dans ce sens. Nous n'avons pas voulu que notre pays soit en reste. Nous avons donc introduit la biométrie et les transferts électroniques des résultats. C'est vrai que nos agents de bureau de vote rencontraient pour la première fois ces tablettes. Il y a eu un effet psychologique pour certains qui n'ont pas su comment les démarrer, bien qu'ils aient été formés, mais par la suite, quand la pression est tombée au cours de la journée, ils ont su les rallumer, ils ont su les utiliser, mais c'était un peu tard pour ceux qui n'avaient pas pu démarrer le matin. Mais nous pensons que c'était une expérience qui était bonne à mener, surtout dans ce scrutin. Mais nous pensons aussi qu'il est bon que dans un pays, l'on puisse avancer pour avoir des résultats plus vite.
Justement, des résultats plus vite, est-ce que vous avez une estimation à nous donner sur la publication de résultats provisoires ou du moins des premières tendances ? On sait que vous étiez encore sur le terrain il y a quelques minutes.
Oui, pour le moment, nous n'avons pas encore de chiffres. Les chiffres commencent à arriver. Notre commission, après l'expérience vécue il y a 5 ans, se veut prudente. Nous voulons donner des chiffres, mais des chiffres, une fois qu'on les annonce, qu'on ne peut plus discuter. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un mode opératoire de proclamation des résultats qui se fait de manière consensuelle parce que notre commission est une commission multipartisane. Donc il faut que tous les autres commissaires, ou du moins le quorum, soient rentrés. Ils sont en train de rentrer. Nous pouvons vous promettre une chose. Quand nous aurons démarré, ça va aller très vite.
Le vice-président de la CEI, Gervais Koulibaly.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une rétrospective des dernières élections en Afrique et un avant-goût des autres à venir. Dans certains pays, la question du troisième mandat fait toujours débat. Qui sont ces présidents qui s'accrochent au pouvoir ? Mettent-ils en péril la paix dans leur pays ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h.
Au Tchad, les élections de 2016 seront organisées grâce à des outils biométriques. Dans ce but, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a lancé officiellement hier, lundi, le recensement biométrique. Point d'orgue de ce grand lancement, le président de la République lui-même, Idriss Déby Itno, s'est fait recenser hier matin dans un centre de la capitale tchadienne. La correspondance d'André Kodma-Djangar.
Au total, 8092 centres de recensement retenus à l'intérieur du pays sont concernés par cette opération. Les matériels prévus pour ce recensement seront rendus mobiles pour permettre aux Tchadiens de deux sexes âgés de 18 ans et plus à se faire recenser pendant les 45 jours. Du côté de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, un organe chargé de l'organisation des élections au Tchad, toutes les dispositions sont déjà prises pour l'organisation harmonieuse de cette opération. Au lancement officiel ce lundi 26 octobre, le président de la République Idriss Déby est allé accomplir son devoir civique dans le premier arrondissement municipal de la capitale.
Je suis très heureux aujourd'hui de venir donc accomplir mon devoir pour me permettre d'aller voter qui je veux. Je voudrais donc lancer un appel à tous les Tchadiens, où qu'ils soient, âgés de 18 ans et plus, de se recenser sans retenue. Et c'est là que demain, le citoyen va, avec cette carte, faire ses choix. Refuser de ne pas se recenser pour des raisons quelconques, n'est pas citoyenne.
La coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution CPDC dénonce les nombreuses manœuvres qui ont entaché le processus depuis la mise en place de la CENI. Pour ce regroupement des partis politiques de l'opposition, le pouvoir s'appuie sur une administration territoriale corrompue et multiplie les entraves dans l'opération de délivrance des jugements supplétifs financés par les partenaires de la communauté internationale. Toutefois, la CPDC appelle tous les Tchadiens à participer massivement à ce recensement biométrique afin de voter pour un changement. Kanombay Balnadban est le porte-parole adjoint de la CPDC.
Ce que nous avons toujours dénoncé, c'est le vote multiple qui est la spécialité des dirigeants actuels du Tchad. Or, le vrai vote, c'est un homme, une voix. Et la biométrie peut nous rapprocher de cet objectif. Et nous demandons aux citoyens tchadiens de participer pour avoir leur carte biométrique. Quand un citoyen n'a pas de carte d'électeur, il est pratiquement inexistant. Nous avons des doutes sur la fiabilité de ces opérations, mais nous voulons participer et suivre avec beaucoup de vigilance le processus et tout ce qui sera constaté comme limite à cette fiabilité-là. Nous allons dénoncer et nous saisirons l'opinion nationale et internationale en temps opportun.
Pour le président Déby, aucun chef des partis politiques de l'opposition ne l'a saisi de façon formelle pour évoquer des manquements observés durant tout le processus. André Koduma Dingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
En République démocratique du Congo, une dizaine de partis de l'opposition ont organisé un sit-in devant le bureau de la CENI à Goma pour demander un calendrier des élections municipales et présidentielles. En RDC, le calendrier communiqué en février dernier prévoyait des élections de députés et de conseillers municipaux dimanche dernier. Mais cette date est passée sans aucune information de la CENI expliquant ce retard. Des membres de l'opposition du Nord Kivu ont alors annoncé des actions pour exiger un nouveau calendrier de ces élections. Actions dont ce sit-in. Reportage à Goma de notre correspondant Charlie Kasereka.
Il réclame à la CENI un nouveau calendrier pour les élections globales. Jean-Baptiste Kasekwa, point focal de la coalition des partis de l'opposition au Nord Kivu.
Nous réclamons donc pacifiquement la CENI nous garantisse la tenue des élections. Et nous n'acceptons donc pas que la CENI fasse partie du triangle du glissement. Ce triangle est composé du gouvernement, de la Cour constitutionnelle et de la CENI. Nous venons aujourd'hui pour dire non à l'effectuation de la CENI, que la CENI nous donne ce calendrier.
Pour la CENI Nord Kivu, il y a des préalables avant la publication des nouveaux chronogrammes, notamment l'organisation des élections des gouverneurs des 21 nouvelles provinces. Raphaël Akilimali est secrétaire exécutif de la CENI à Goma.
Et quand on parle besoin de notre calendrier, c'est évident, on doit réévaluer le calendrier et je pense que dans les jours à venir, sur certains, il y aura un nouveau calendrier qui sera rendu public. Avec précision des dates, on ne sait pas exactement puisqu'il y a la Cour constitutionnelle qui demande avant toute chose que la CENI organise d'abord les élections pour les gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces.
Côté contestataire qui, leur manifestation a été stratégiquement encadrée par la police congolaise, les actions ne sont qu'au début, promettant de revenir jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause.
Et aujourd'hui, ce n'est que le début. Dans les tout prochains jours, nous allons lancer un programme de sit-in permanent. Nous allons venir ici avec des sacs, des haricots et autres. Nous allons passer nuit. Comme nous avons obtenu le calendrier à février 2015, France. De la même manière, grâce à la mobilisation de tous les Congolais, nous sommes certains que nous allons obtenir le calendrier. Et qu'il pleuve, qu'il neige, il n'y aura pas de glissement. Les Congolais ne l'accepteront jamais. Et nous voulons que la CENI comprenne ce message bien avant.
Au Nord Kivu, suite au retard observé déjà dans l'organisation des élections des députés provinciaux, les candidats qui avaient déposé leur dossier avec une caution non remboursable de $500 américains ont adressé en septembre dernier un mémo exigeant à la CENI de les dédommager. Et Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au Burkina Faso, les premiers chèques du programme socio-économique d'urgence de la transition, appelé également PSUT, programme pour le financement des initiatives des jeunes et des femmes, sont arrivés lundi. Les 3455 bénéficiaires vont, grâce à l'enveloppe de 7 milliards, réaliser leurs projets. Beaucoup de femmes et de jeunes sont concernés, principale cible de la pauvreté au Faso. Le taux de chômage, par exemple, le taux de chômage des jeunes frôle les 40%. De Ouagadougou, reportage de notre correspondant Zoumana Wanogo.
Zigani Emmanuel, de 2,5 millions pour l'agrandissement de son restaurant. Khedga Kiatou, elle reçoit 1,3 millions pour l'amélioration de son élevage. Francis Wende Jacqueline Iboudo, 200 000. Khedga Rukiatou, 1,3 millions.
Sur environ 18 000 dossiers, le PSUT, Programme socio-économique d'urgence de la transition, a retenu 3 455 projets. Preuve que l'assiette mise à disposition n'est pas très grande. Qu'en dit alors Olivier Savadogo, le coordonnateur du PSUT, Programme socio-économique d'urgence de la transition?
Ce que le gouvernement de la transition a voulu apporter, c'est lancer à l'endroit de la jeunesse, des femmes, de ceux qui sont au chômage, de ceux qui ont besoin d'appui, que le gouvernement ne les oublie pas. Et lancer à l'endroit des dirigeants qui vont prendre la relève de la transition, que c'est cette voie-là qu'il faut suivre.
Heureuse bénéficiaire d'un chèque de 17 millions de francs CFA, Micheline Zongo revient ici sur les difficultés d'accès au financement avant la transition.
Avant, il fallait connaître des gens, il fallait avoir des relations, de l'ombre pour pouvoir être... Il faut vraiment négocier fort ou bien... Bon, vous savez, nous les femmes, on est... Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas facile. Mais ça, je l'ai déposé sans connaître quelqu'un et puis voilà, ça a marché. Bon, en fait, je veux pouvoir m'équiper en matériel pour produire en quantité le gapal que je fais. Le gapal, c'est un jus naturel fait à base de petits millets de lait.
Dans la même lancée, Isidore Ouedraogo, sans trop y croire, a postulé et son dossier a été retenu. Il le dit.
J'étais pas trop sûr, mais bon, je me dis que comme ils ont dit que rien ne serait plus comme avant, je me suis dit que je peux tenter aussi ma chance. Si ça marche, c'est tant mieux que ça marche. Je viens de recevoir mon financement, je suis satisfait. 1,5 million. C'est pour la confection et des kits solaires. C'est-à-dire, nous allons concevoir des kits solaires que les gens pourront utiliser en cas de coupure d'électricité ou bien dans les zones isolées.
À l'endroit des bénéficiaires du fonds d'appui, le premier ministre Yacouba Isaac Zida a fait cette adresse.
Pour construire un Burkina Faso de paix et d'espérance, nous ne devons pas avoir la pauvreté en partage, mais travailler plutôt à réduire de façon très significative les limites de la précarité et de la misère dans toutes les couches sociales de notre pays.
Au nom de ses camarades, Yves Gabin Ibego, lui aussi bénéficiaire, a donné l'assurance que les prêts seront remboursés. Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Michel Joseph était à la réalisation. Jonah Cummings était à la console. Présentation, Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.